Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Li Muang-nok, maître de conférence à l'Université de Paris 1.
Alors, Li Muang-nok a écrit un petit livre qui s'appelle « Vive l'impôt » aux éditions Grasset. Alors, au départ, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, franchement, il exagère, Li, parce qu'on peut quand même pas dire qu'on a un plaisir absolument évident à payer ses impôts. Et a priori, on est plutôt, comme tout le monde, on aimerait bien plutôt qu'il baisse. Et puis, en vous lisant, j'ai eu l'impression que parler d'impôts, c'était parler de modèle de société, de modèle de choix de société, de modèle social, pour ainsi dire. En quoi ?
C'est vrai que les gens n'aiment pas spontanément payer des impôts. Quoique, quand on regarde les dons qu'ils ont donnés pour le tsunami, c'était une sorte d'impôt volontaire consenti pour les associations. Bon, la différence lorsqu'il s'agit d'impôts publics, c'est que c'est l'État qui les collecte et qui les utilise pour la solidarité, non pas privée, mais solidarité nationale. Donc, il y a, me semble-t-il, autant de gens qui ont envie d'œuvrer pour la solidarité privée que pour la solidarité nationale. Et à ce titre, l'impôt est un instrument essentiel de financement de l'action publique. Sans impôt, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. C'est tout ça qu'il y a derrière. C'est un choix de société. Et je rappellerai que l'impôt, c'est un des deux piliers de notre République, le premier étant le suffrage universel, et le deuxième, c'est le fait de faire fonctionner la solidarité nationale avec le principe de la capacité contributive de chacun, et l'impôt sur le revenu progressif est l'instrument par excellence du financement de l'action publique selon ce que chacun peut apporter. C'est un acte citoyen, c'est pas une punition.
Et quand vous dites que ça sert à payer la solidarité, ça a toujours été ça, depuis toujours ?
Pendant l'Ancien Régime, ça a payé les dépenses somptuaires de la noblesse, les dépenses qu'on appelait les dépenses improductives à l'époque, ça payait les biens du clergé, et il est vrai que au temps de l'Ancien Régime, l'injustice fiscale était l'une des causes du soulèvement populaire. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à un retour des privilèges, d'une certaine façon, puisque les projets fiscaux néolibéraux consistent, contrairement à ce que l'on pense, non pas à baisser les impôts, mais à reporter la charge fiscale sur les ménages, sur ce que l'on appelait jadis les gueux. Je rappellerai que la grande coalition, qui est très à la mode aujourd'hui du côté de Monsieur Bayrou, en Allemagne, a baissé de 8 points l'impôt sur les sociétés pour augmenter de 3 points la TVA. Or, la TVA, c'est un impôt. Il est faux de dire aujourd'hui qu'en France, personne ne paye l'impôt. Tout le monde paye l'impôt, puisque lorsque vous allez au supermarché, vous payez l'impôt au premier centime. Et la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Si vous prenez les 10% des ménages les plus pauvres, ils consacrent aujourd'hui 8% de leurs revenus au paiement de cet impôt. Donc on a des projets qui consistent à reporter vers les ménages le financement des dépenses de l'État pour mieux baisser la progressivité de l'impôt sur le revenu et réduire l'impôt sur les sociétés. C'est un autre choix.
Vous avez dit tout à l'heure reporter la charge fiscale sur les ménages. J'arrive pas très bien à comprendre.
Les ménages, c'est vous et moi. C'est pas les entreprises. C'est tous ceux qui consacrent le fruit de leur travail ou des revenus qu'ils touchent à la consommation, puisque la TVA est un impôt sur la consommation que tout le monde paye.
Mais là, il n'est pas question d'augmenter la TVA.
Dans les projets fiscaux de la droite, si. Le gros truc à la mode, si vous lisez tous les rapports écrits par les chiens de garde néolibéraux qui leur servent d'experts, quand je dis la droite, hein, ça va bien au-delà de la droite. Il y a des gens au centre gauche et même à gauche, qui kiffent, comme dirait l'autre, sur la TVA sociale aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est l'impôt le plus moderne qui permet de baisser, comme ils disent, les charges des entreprises et de baisser la progressivité de l'impôt.
TVA sociale, c'est quoi ?
C'est un moyen déguisé pour ne pas parler de protectionnisme. Bon, je sais que nous ferons peut-être une émission sur le protectionnisme, mais comme les libéraux n'entendent pas appliquer de tarifs extérieurs communs, de tarifs douaniers, la parade, parce qu'ils ont conscience qu'il y a un problème de délocalisation quand même, la parade qu'ils ont trouvée, c'est d'augmenter la TVA pour appliquer une sorte de tarif douanier, sans le dire. Sauf que cette TVA va plomber la consommation des ménages les plus pauvres. Elle s'appliquera non seulement aux produits importés, mais aussi aux produits nationaux, avec un risque qui est l'inflation, puisque je ne crois pas que, compte tenu des exigences actuelles des actionnaires, les entreprises baissent leurs prix s'ils ont augmenté la TVA. Et d'ailleurs, en Allemagne, elles n'ont pas baissé leurs prix. Et donc, on aurait un effet de regain de l'inflation qui plomberait le pouvoir d'achat des ménages et qui pousserait sans doute Monsieur Trichet à nouveau à resserrer la politique monétaire, ce qui serait catastrophique pour l'Europe.
Des souhaits des hommes sur Aligre FM, et on est toujours en compagnie de Limo Angno qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Vive l'impôt » et qui essaye de me persuader que c'est vraiment très bien d'en payer. Pourtant, moi je me disais, je sais pas, je vais peut-être voter plutôt pour la droite, puisque tout à l'heure vous m'avez dit ils veulent pas baisser les impôts, mais pourtant ils n'arrêtent pas de me dire que si.
Mais la droite a augmenté les prélèvements obligatoires. Ils étaient de 43% en 2002, ils sont de 44% aujourd'hui. Donc elle a pas baissé les impôts. Elle veut baisser la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et elle veut baisser l'impôt sur les sociétés. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des impôts qui pèsent sur la population va baisser si elle décide d'augmenter, par exemple, la TVA, comme c'est dans ses projets non dits. Le système fiscal aujourd'hui est déjà injuste, parce que le seul impôt progressif, le seul impôt qui soit juste, qui mette à contribution selon la faculté de financer de chacun, c'est l'impôt sur le revenu, qui ne pèse que 16% des recettes fiscales de l'État. La TVA pèse aujourd'hui 51% des recettes fiscales. L'impôt sur les sociétés, quelque chose comme 15. Et la TIPP, c'est 8 à peu près. Donc, ici, abaisser la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est à nouveau réduire le rendement de l'impôt sur le revenu. Et pour contrebalancer ça, parce que si j'ai bien compris, on va aussi baisser de 13 points l'impôt sur les sociétés. Monsieur Chirac a annoncé ça au moment de ses vœux, ça veut bien dire que il va falloir trouver des soyeurs, ou alors ça veut dire qu'on coupe sacrément dans les dépenses publiques et sociales. Et alors où? Dans l'éducation, dans la santé, dans les retraites? Bon, là il y a un véritable arbitrage où les libéraux pensent que toutes ces dépenses-là sont pléthoriques, inefficaces et inutilement réalisées par le public. Ils entendent en privatiser quelques-unes. Les universités sont déjà programmées et recentrées. Pensent qu'il faut recentrer la dépense publique uniquement sur les dépenses régaliennes. Et le pendant de tout ça, c'est naturellement la baisse des impôts, quoi. Mais pas de n'importe quels impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le patrimoine via le bouclier fiscal qui va supprimer les effets de l'ISF. Et puis on parle aussi de supprimer l'impôt sur les successions, quoi.
On pourrait se dire, c'est très très bien quand même de vouloir baisser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, parce que ça donnera la possibilité que les gens achètent plus de trucs. Et puis l'impôt sur les sociétés, c'est parce que ça va permettre l'investissement. Et ça c'est bien parce que ça va fournir du travail à tout le monde.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, quand vous baissez la progressivité de l'impôt, en abaissant le taux des tranches supérieures, l'effet est effectivement de redistribuer du revenu en direction des catégories à haut revenu. Et en effet, la croissance aujourd'hui n'est tirée que par la consommation des classes riches. La consommation populaire est plombée par le pouvoir d'achat, les entreprises n'investissent pas, et ce qui tire l'économie, c'est les achats de 4x4 dans la banlieue ouest. Vous baladez à Neuilly, c'est le marché des biens de luxe est florissant. C'est ça qui tire l'économie aujourd'hui. Bon, mais ces classes-là sont également celles qui épargnent le plus. Donc quand vous redistribuez en leur direction, bah, vous alimentez la bulle. Et la bulle, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'immobilier. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de logement dans ce pays et ça n'est pas fait pour arranger les choses. Et puis l'autre bulle, c'est la bulle boursière, qui est une bulle parce que les entreprises qui disposent aujourd'hui de profits et de fonds propres n'investissent pas. C'est bien ça le gros problème de l'économie française aujourd'hui. Et tout ce que l'on dit sur l'impôt sur les sociétés est faux dès lors que les profits des entreprises aujourd'hui sont distribués pour plus de la moitié sous forme de dividendes et l'autre moitié n'alimente que très peu l'investissement, qui est sur une tendance baissière. Donc c'est pas parce que vous allez redistribuer plus en direction des profits que ces profits vont alimenter l'investissement, parce que le théorème Schmitt, le fameux les profits d'hier qui auraient dû être les investissements d'aujourd'hui, les emplois de demain, bah, ce théorème est invalidé empiriquement quand on observe la tendance baissière de l'investissement alors que les profits sont en train d'exploser. Donc il y a un vrai problème par rapport à une foi en un discours néolibéral qui n'est fondé sur rien.
Ben oui, c'était ce que j'allais vous dire justement. C'est ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est que les libéraux nous disent qu'au contraire, enfin, vous venez de dire que c'est faux le théorème de Schmitt, mais eux continuent de nous dire que c'est vrai.
Ben vous savez, c'est une croyance. Et les croyances se nourrissent de dictons et de versets. Donc on nous explique depuis 20 ans que la feuille de paie est l'ennemi de l'emploi. Ce que aucune étude économique n'a réussi à montrer, notamment pour le cas français. On essaie aujourd'hui de nous expliquer que l'impôt est l'ennemi de la croissance, ce que les études de Thomas Piketty, qui n'est pas un gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire, ont invalidé. Les travaux de Piketty montrent qu'au contraire, les périodes où la croissance a été la plus forte sont celles où l'impôt progressif sur le revenu a produit le plus d'effets, tout simplement parce qu'il a euthanasié le rentier, c'est-à-dire qu'il a empêché que se reproduise une classe de rentiers qui joue contre le dynamisme de la reproduction des élites entrepreneuriales. Donc ne serait-ce que sur le terrain de la dynamique du capitalisme, la rente joue véritablement contre l'investissement et contre l'emploi.
Des sous et des hommes sur Allegre FM, toujours avec Limo Gnoc. Alors je me disais, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour à la fois assurer la solidarité nationale et avoir des impôts qui seraient justes?
L'impôt est un instrument de correction des inégalités, vous avez raison de le dire. Et donc, dans ce cas-là, il faut trouver une formule qui rende l'impôt le plus progressif possible et le plus juste possible. Et puis, l'impôt est aussi un instrument de financement de l'action publique. On parle aujourd'hui beaucoup du chiffrage des programmes. Il va bien falloir trouver les 30 milliards dont chacun parle aujourd'hui pour financer son programme. Donc, y a ces deux réflexions qui sont à l'origine des propositions fiscales qui sont contenues dans mon ouvrage, qui propose tout d'abord la création d'un impôt universel sur le revenu. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde, en fait, paye déjà des impôts, soit par la TVA, mais soit aussi par la CSG, puisque la contribution sociale généralisée est un impôt que tout le monde paye. C'est prélevé à la source, ça ne se voit pas, mais tout le monde le paye, et c'est un impôt aussi injuste que la TVA, puisque le même taux frappe le riche et le pauvre. Et puis, 50% de la population paye l'impôt sur le revenu, alors que l'autre partie en est exonérée. Donc, la proposition qui est faite ici est de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, de créer une assiette extrêmement large. L'assiette de la CSG est cette assiette suffisamment large qui peut servir de base à la création de l'impôt universel. Et puis, sur la base de cette assiette large, on appliquerait un barème progressif, 10 tranches, 10 parce que il est important que il n'y ait pas trop d'écart dans chaque tranche et entre les tranches. Il y a un fameux débat sur les sauts de tranches quand on gagne un peu plus d'argent. Bon, il est important quand même que les sauts ne soient pas trop forts. Et puis on mettrait un abattement sur la première tranche, la tranche la plus faible, pour pouvoir redistribuer en direction des bas revenus. Ce qui nous permettrait de supprimer la prime pour l'emploi aujourd'hui qui n'est pas très redistributrice, qui comporte de nombreux effets pervers et qui sous-entend par ailleurs que les chômeurs sont responsables de leur situation puisqu'ils refusent de travailler et qu'en tant que tels, ils n'ont pas le droit à la redistribution. Donc ça a plusieurs avantages ce système et puis ça ouvrirait le débat sur le quotient familial. La CSG aujourd'hui n'est pas familialisé, comme on dit, on ne tient pas compte du nombre d'enfants quand on paye la CSG, alors que l'impôt sur le revenu tient compte du nombre d'enfants à travers le nombre de parts par lequel on divise le revenu déclaré pour obtenir le revenu imposable. Donc est-ce qu'il faut maintenir ou pas le quotient familial? C'est un débat national qu'il faut ouvrir. Donc ça permettrait au moins de clarifier les choses. Et puis cette fusion qui a l'air d'être un débat technique est philosophiquement justifiée par le fait que les dépenses sociales, celles de la sécurité sociale, retraite, famille, santé, sont pour la plupart, je parlais notamment des dépenses de santé, devenues des dépenses à caractère universel. C'est-à-dire que tout le monde bénéficie de la sécurité sociale sans forcément être dans une situation de salarié, contrairement à ce que c'était lorsque la sécurité sociale fut créée en 1945. C'était un régime d'assurance sociale obligatoire des salariés. Aujourd'hui, la santé est devenue un système de protection universelle. Et si c'est un bien universel, eh bien, il faut le financer par le moyen le plus juste de la solidarité nationale, le moyen le plus juste de financement de la solidarité nationale, qui est l'impôt. Donc on basculerait dans ce cas-là tout vers l'impôt sur le revenu. Hein, il y aurait plus de cotisation sociale. D'ailleurs, la CSG a quasiment supprimé la cotisation salariale. Donc du côté des ménages, on aurait un impôt sur le revenu universel progressif qui financerait y compris les dépenses de santé. Et puis du côté des entreprises, de la même façon, on remplacerait les cotisations patronales par une sorte d'impôt, une contribution sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur l'ensemble des richesses produites par l'entreprise, salaire plus profit, ce qui permettrait de mettre à contribution les profits pour financer le budget, et notamment le budget social. Bon, ça reviendrait, si vous voulez, à créer un impôt sur les sociétés bis, avec une assiette plus large, dans le but, dans un premier temps, de financer l'ensemble des dépenses sociales. C'est pour ça que j'ai appelé ça une CSG entreprise. Et donc on aura un système cohérent, une nouvelle fiscalité des entreprises plus élargie pour financer les dépenses sociales qui mettrait à contribution les entreprises du CAC 40 beaucoup plus que les PME, puisque si on crée une assiette valeur ajoutée, on inclut dedans les profits, et ceux qui en réalisent le plus, ce sont ceux du CAC 40, ce sont les entreprises du CAC 40, celles du CAC 40. Et puis ça permettrait du coup de réduire la charge fiscale des PME, dont on parle également tant, parce qu'elles sont créatrices d'emplois pour 60% des créations d'emplois aujourd'hui.
J'avais entendu dire que certains n'étaient pas d'accord sur le fait d'asseoir des impôts sur la valeur ajoutée. Pourquoi ?
Parce que ça taxe les profits.
Ah, oh, pardon.
Le président, non, mais c'est un langage techno, la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, d'un point de vue comptable, c'est salaire plus profit. Donc pour le moment, l'assiette des cotisations patronales, c'est l'assiette des salaires, si vous voulez. Vous avez des cotisations salariales et puis des cotisations patronales. Hein. Le taux de cotisation patronale pour l'assurance maladie, c'est 12,5 aujourd'hui. C'est beaucoup moins au niveau du SMIC puisqu'on a exonéré les entreprises de cotisations sociales. Il n'y a plus que 2% au niveau du SMIC. La réforme qui consisterait à basculer le système sur la valeur ajoutée permettrait, si vous voulez, de mettre un taux de cotisation sur la valeur ajoutée, un taux de contribution plus exactement, hein, qui serait de l'ordre de 9% pour l'assurance maladie au lieu des 12%. Donc 9% sur une assiette valeur ajoutée, bah, ça vous fait une baisse quand même importante de la charge, entre guillemets, qui pèse sur les PME.
Qui est d'accord avec vous, finalement ? Parce qu'a priori, ça semble tout à fait raisonnable, ce que vous proposez.
Ah, les syndicats sont d'accord, puisque on aurait un système mettant à contribution les profits, notamment celles des gros, ceux des gros. Et puis, les artisans, l'UPA, est d'accord également. Ça fait partie de ses propositions, et la CGPME, le syndicat des petites entreprises, y est extrêmement favorable également. La seule opposition de taille, c'est le MEDEF, ou l'UMM, l'Union des industries minières et métallurgiques, qui en est la principale composante, est farouchement opposée. Et d'ailleurs, même M. Chirac était pour, puisque lors de ses vœux, pas ceux de cette année, mais ceux de l'année précédente, il avait rouvert le débat parce qu'il sentait bien qu'il y avait un problème du côté des PME qui sont effectivement aujourd'hui étranglés par leur donneuse d'ordre du CAC 40.
Donc ça verra peut-être le jour, un jour, ou ce que vous proposez ?
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est pas tellement dans l'air du temps, c'est un peu tabou. Bon, cela dit, moi j'ai constaté quand même une forte adhésion populaire. La pétition d'Alter Echo a beaucoup de succès. Il y a un vrai sentiment populaire aujourd'hui qui demande de la solidarité, et d'autant plus que il y a des catégories qui sont les grandes bénéficiaires aujourd'hui de la mondialisation, qui parlent beaucoup de solidarité, mais qui ne s'appliquent pas fondamentalement le principe quand il faut passer à la caisse. Bon, après, en ce qui concerne l'impôt, enfin la contribution sur la valeur ajoutée, le MEDEF est en position de lobbying favorable, je dirais, pour s'opposer à ce type de projet. Bon, je vous cacherai pas que sur l'ensemble des projets économiques progressistes, on est un peu au fond du trou, et les néoconservateurs sont en passe de gagner provisoirement la partie.
Provisoirement, on espère. Et oui, donc c'était bien des souhaits des hommes en compagnie de Limo Ognoc, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Vive l'impôt ». C'est aux éditions Grasset. Alors il y a une première partie qui est particulièrement passionnante, la deuxième est un petit peu compliquée quand même, en tous les cas pour les néophytes, mais je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup de gens. En plus de ça, c'est pas cher, c'est 9 euros aux éditions Grasset. Et puisque Liam Nogonok est avec nous, je le garde pour la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.